traite tous les plus farces. Si t'étais bon chichi, on s'occupera de ti. Par l'accrocher au bar, on se raconte des histoires. On se traite, on se malmène, car si tu le ramènes.
Si tu l'as, si tu l'as, si tu l'as ramènes.
Méfie-te les 62.
Si tu l'as, si tu l'as, si tu l'as.
Eh bien, 62 méfiteux, mais méfiteux pas, le 9 janvier, samedi 9 janvier à Méricourt, à l'espace Ladoumeg, à partir de 18h, ce sera la fête à Marcel et son orchestre et un hommage à François Béranger avec au programme Les Blaireaux,
Sarclos,
Gavroche,
HKN et Saint-Albanque,
Presque Oui, et de nombreux invités comme Fromesil,
Jean-Marc et les Triple Scotch,
Dominique Boss,
et avec la participation de Jeff Kineux et son Masterclass.
Alors, les places sont en vente à Radio Campus.
Au 03 20 91 28 75, du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Et tout ça pour la modique somme de 5 euros.
Alors n'hésitez pas, venez nombreux et tous à partir de 18h, puisque l'ordre des artistes qu'on vous a invoqués n'est pas forcément l'ordre de passage.
Et oui Jean-Marc, seulement 5 euros.
Bonsoir et bienvenue sur Radio Campus 106.6 FM dans l'émission Random, émission aléatoire. Donc émission qui traite de la contre-culture hacker, bidouillage, liberté numérique et société de l'information. Donc ce soir on va avoir un premier chapitre de l'actualité, donc on verra un petit peu ce qui se passe en ce moment. Ensuite on a un petit développement, on va notamment parler du web 2.0. Donc bon petit web 2.0.
Du moins ce qu'on en pense.
Du moins ce qu'on en pense, ouais.
Après, on fera un petit peu de technique hein, avec N-Killer 2 et Sox13 pour ceux qui se connaissent. Voilà, puis bah, par la suite, on passera à l'agenda. Donc voilà, donc ce soir avec nous, on a DB.
Bonsoir.
On a Little Charlie.
Bonsoir.
Et on a l'infatigable ambassadeur à la technique.
Bonsoir, donc ce sera moi pour ce soir. Une fois n'est pas coutume, hein, je m'occupe de la technique ce soir. Voilà. Donc on va pouvoir passer par l'actu.
On va pouvoir commencer par l'actu. Alors l'actu, oui. Alors la première chose, une chose assez importante et qu'on doit annoncer quand même, dont on n'a pas encore parlé depuis, puisque c'est quand même la cinquième émission, hein, on en est quand même déjà à cinq, enfin c'est la cinquième émission, et c'est la distribution en fait donc des MP3 de l'émission. Alors ce qu'il faut savoir en fait c'est qu'on a donc l'autorisation par les autorités compétentes de diffuser les enregistrements des émissions Radio Campus, d'autant plus que c'est pas emmerdant, on passe que de la musique libre, donc la SACEM Voilà. Et donc voilà. Et donc en fait, il y a des personnes assez, enfin assez gentilles pour diffuser en fait les MP3 de nos émissions, mais pas sous forme de MP3. Il y en a un qui ne les passe sous forme de podcast. Donc ça, c'est super super gentil qui nous les passe depuis podcast. Alors on va pas dire que qu'il les passe depuis, enfin que le contenu a été accepté dans iTunes et que le podcast est donc accessible depuis iTunes, parce que justement on va parler des web du web 2.0 tout à l'heure. Et donc on ne dit pas à nos auditeurs qu'ils peuvent aller choper le podcast sur iTunes. Mais deuxièmement, il y a également un torrent qui a été créé par un de nos auditeurs, qu'on remercie au passage. Et ce torrent, il a été indexé dans les gros moteurs de recherche de torrent, notamment The Pirate Bay. Donc voilà, donc l'émission Random est disponible sur les réseaux de téléchargement et de partage de fichiers. Voilà, donc c'est un contenu qui est téléchargeable gratuitement, librement, et qu'on vous engueulera pas par la, enfin que vous ferez pas engueuler par la Adopi pour l'avoir téléchargé. Donc on remercie les personnes qui nous aident, et puis également ces personnes, elles ont besoin d'aide. Le torrent, il y a besoin de seeders, donc si vous avez un petit peu de connexion à donner à Random, et bien n'hésitez pas donc à seeder le torrent de Random. Voilà.
Sinon, si votre bande passante est un peu limitée, il y a toujours la station Radio Campus, qui est une association qui est vraiment très active au niveau de tout ce qui est radio depuis 1969, l'une des premières radios libres. Donc voilà, c'est une bonne initiative, un média indépendant qu'il faut soutenir.
Voilà. Ensuite, au niveau des actus, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, bah alors je vais continuer à parler. Donc il y a une deuxième actu qui est rigolote, c'est Anon Contest. Donc il y a quelques jours en fait, le groupe Anonymous New York, il me semble que c'est le groupe new-yorkais. Donc Anonymous, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe informel qui s'est formé il y a quelques mois en réaction donc à l'église de Scientologie. Et donc le but du jeu en fait a été de faire taire globalement sur internet, enfin de faire taire tout le discours scientologiste sur internet, et ce par tous les moyens, notamment en bombardant les sites de connexion de manière à ce que les sites tombent. Donc ça a été une de leurs premières actions médiatiques. Et là ils lancent un deuxième truc qui est donc le Anon Contest. C'est un concours de blagues, donc le but du jeu est de créer une petite vidéo. Une petite vidéo marrante, qui doit être. Il y a deux conditions pour participer au concours. C'est premièrement être marrant, et deuxièmement se moquer de l'église de Scientologie. Donc on trouve que c'est une initiative un petit peu rigolote, donc voilà, on en fait de la pub. Donc le site, c'est anoncontest.org, et vous pouvez aller poster vos vidéos là-bas. Par contre, elles doivent être en anglais. Donc voilà.
Dans les autres actus assez intéressantes, il y a Adobe, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, avec quelques failles 0D, et visiblement, Adobe n'a pas trop envie de patcher ces failles. C'est les vacances de Noël, c'est les fêtes, donc bon, voilà, c'est remis à début janvier, voire mi-janvier.
Non, je comprends.
Donc voilà, si vous utilisez des produits Adobe, faites gaffe, mais en même temps, tout le monde sait que Flash, c'est mal, donc voilà.
Adobe, c'est Adobe, en fait, hein. Adobe. Pour les newbies, d'accord.
Dans les informations un peu orientées biohacking, des infos qu'on n'a pas trop traitées pour l'instant, il y a donc sur le blog de Corben, bon, qui est ce qu'il est, un article sur donc la cybernétisation de l'œil. Donc il y a eu des recherches sur une lentille qui permet d'augmenter la résolution de l'œil, en fait, pour des personnes qui ont des problèmes, des défaillances au niveau de la vue. Donc voilà. Donc ça permet d'améliorer un peu la résolution de l'œil, en quelque sorte. Voilà. Dans les news plus politiques, notamment autour des libertés numériques, il y a une information donc de la Ligue des droits de l'homme, Mini Pinarene, qui publie le point de vue d'un officier de gendarmerie, le chef de la gendarmerie de Mini Pinarene d'après la Ligue des droits de l'homme, où en fait on apprend que pour ce personnage, en fait, la vidéosurveillance, ça sert à rien. C'est des enregistrements continus, mais personne ne les regarde. Ça remplace pas pour lui la personne, une personne sur le terrain qui va traiter des problèmes. Au niveau des failles, autre faille que Adobe, on peut penser donc aux failles de Drupal et PostgreSQL. Il y a eu énormément de failles PostgreSQL, une bonne dizaine publiées sur la base de la NVD. Donc des failles PostgreSQL qu'il faut patcher d'urgence. Mais normalement, dans la plupart des distributions, ça devrait être fait. Et sinon, une faille Drupal, une grosse faille de sécurité. Donc là, les mises à jour sont déjà disponibles sur le site de Drupal. Donc voilà, c'était juste pour faire une piqûre de rappel sur l'importance des mises à jour.
Bon. Et dernier point qu'il va falloir quand même qu'on explore un petit peu, et c'est ce qui sera fait dans une seconde partie de l'émission, c'est la soirée écologique qui a été organisée, mardi dernier ou jeudi dernier
Ça devait être...
C'était jeudi dernier, c'était il y a 10 jours. Et donc une soirée qui était organisée à l'initiative du groupe écologique, je crois qu'ils sont affiliés au Vert ou quelque chose comme ça.
Écologique, en fait, est le groupe militant d'Europe Écologie, donc en partie des Verts. Autour de... initialement, il a été créé pour les européennes. C'est un groupe de militants qui se préparent pour les régionales, qui sont les prochaines élections, en fait.
Et donc, dans le cadre des élections régionales, donc il y avait la tête de liste Vert, les Verts, plutôt, pas Europe Écologie, mais la tête de liste Vert de...
qui est aussi, il me semble, la tête de liste Europe Écologie pour les régionales, mais c'est à confirmer de toute façon.
C'est à confirmer. On a essayé un petit peu de discuter là-dessus, notamment sur le fait que... on devient facilement prisonnier un petit peu de Twitter et de Facebook quand même. Ça devient très très difficile de s'en débarrasser une fois qu'on a mis le doigt dedans. Et deuxièmement, que deviennent un petit peu toutes les plateformes web 1.0, pour ainsi dire, qui existaient avant et pour lesquelles il y a eu quand même de très très beaux résultats. Je veux dire, le manifeste qu'on a publié cet été, on l'a pas publié sur Twitter, et pourtant on a quand même eu un certain lectorat. Et puis deuxièmement, faut se rappeler quand même du sous-commandant Marcos. Il n'y avait pas Twitter à l'époque, il n'y avait pas Facebook non plus, et pourtant le monde entier a été au courant de sa lutte au fin fond du Chiapas. Et donc, faut quand même se rappeler un petit peu que... on va parler un petit peu de l'arnaque 2.0 par la suite, mais voilà, il y avait... fallait qu'on le dise, quoi.
Ouais, c'est sûr. De toute façon, tous les monopoles, quels qu'ils soient, ont leur quota de... Enfin, leur taux de mauvaises choses, quoi. Si tout passe par Twitter.
Si tout passe par Twitter.
Voilà. Le jour où Twitter tombe, tu tombes, on tombe.
Ou le jour où Twitter décide d'arrêter, ou parce qu'ils ont été rachetés par ceci ou cela.
Je te reprends sur 1.0, 2.0, en fait. Ça sera important dans la deuxième partie de l'émission de revenir sur concrètement au niveau technique, qu'est-ce qu'on considère comme 1.0 et comme 2.0, et concrètement ce qu'il y a comme différence ou ce qu'il n'y a pas comme différence.
On en reparle juste après, une pause musicale.
Contre-culture, hacker, bidouillage, liberté numérique et société de l'information, c'est Random, l'émission radiophonique du groupe Dégénérescence Lille, diffusée un dimanche sur deux, de 19h à 20h sur les ondes de Radio Campus Lille, la première émission libre et associative de France, fondée en 1969.
Dans la lumière de mon écran plasma du soir au matin, je capte le monde, je tisse des liens sur une toile virtuelle, un incessant va-et-vient me renvoie les ondes des autres terriens. Je ne sors plus de mon appartement, ça ne sert à rien. J'ai toute la planète à portée de main. 14h30 à Washington et Israël à moins 20. Sur mon tapis volant, rien ne me retient. Des ailes sur mon fauteuil de bureau. Je survole et je parcours le réseau. J'ai le don d'ubiquité planétaire. Enfant de la nouvelle race de nomades sédentaires. C'est dans l'air. Sur une page triple X, je m'attarde en chemin. Brune des blondes, la femme du voisin. Puis une escale dans un salon de discussion nomadien. Pour quelques secondes de rapport humain. Non, je ne sors plus de mon appartement, ça ne sert à rien. J'ai toute la planète à portée de main. 20h09 à Toulouse et 20h11 à Pékin. Sur mon tapis volant, rien ne me retient. Des ailes sur mon fauteuil de bureau. Je survole et je parcours le réseau. J'ai le don d'ubiquité planétaire. Enfant de la nouvelle race. Des ailes sur mon fauteuil de bureau. Je survole et je parcours le réseau. J'ai le nom d'ubiquité planétaire. Enfant de la nouvelle race. Nomades sédentaires. C'est dans l'air.
Voilà, vous êtes toujours sur Random, sur Radio Campus. Donc vous venez d'entendre Free Step de Push sur l'album We Are Push, disponible sur Jamendo, suivi de C'est dans l'air, de Guyot sur l'album À l'unisson, que vous pouvez également trouver sur Jamendo.
Et je tiens à m'excuser auprès des auditeurs, le choix musical est de Little Charlie. C'est lui donc qu'il faut engueuler, je n'y suis strictement pour rien.
Oh, c'est facile, le pauvre, il est même pas là pour se défendre.
Non, c'est sûr, tant mieux. Profitons-en. Et on s'excuse aussi pour la Three Step a été passée un petit peu deux fois. Random est une émission aléatoire faite par des amateurs. Et donc, ce que ça donne la radio amateur.
C'est clair.
Et donc, vous êtes donc toujours à l'écoute de Radio Campus, 106,6 MHz. Radio libre et associative, et vous pouvez venir nous engueuler par téléphone pendant les pauses musicales, parce que pendant qu'on fait de la radio, faut pas nous appeler, ça sert à rien, on répond pas. Au 0320 91 24 00. Voilà.
Donc 0320 91 24 00, n'hésitez pas. Voilà, donc on va continuer, on voulait enchaîner sur le web 2.0. C'est ça ?
Ouais, exactement. Donc on va enchaîner sur une petite diatribe anti-web 2.0. Sachant qu'en fait, il faut que vous sachiez que la première partie de l'émission a été enregistrée, parce qu'on est quand même le 20 décembre, tout ouais, ça, tout ça. Fait. Donc on a enregistré ça aux petits oignons dans les studios, et ça a été refait ce matin.
Ouais.
À la dure. Donc voilà, donc on va parler un petit peu du web 2.0. Alors, le web 2.0, qu'est-ce que c'est ? Alors, on va essayer d'en donner une définition simple, claire et objective. Donc, le web 2.0, c'est une arnaque visant à imposer le contrôle des faibles par les forts. C'est le regroupement d'intérêts des personnes qui savent comment fonctionne Internet, en vue d'asservir et de détrousser les personnes qui ne savent pas comment fonctionne Internet. En fait, il s'agit, après l'explosion de la bulle Internet, de réorganiser l'exploitation de l'homme par l'homme, via le contrôle des masses et la concentration des données des services. Alors, à ce sujet, en fait, on a une petite référence d'une personne qui a travaillé un petit peu sur le sujet, qui s'appelle Benjamin Bayard. C'est l'actuel président de French Data Network, donc FDN, qui est en fait le plus ancien fournisseur d'accès Internet de France encore en activité. Donc c'est un fournisseur d'accès Internet associatif qui prône les libertés individuelles et la neutralité des réseaux. Et donc Benjamin Bayard, il a fait une conférence il y a quelques années aux Rencontres Mondiales du Logiciel Libre, je crois que c'était à Amiens. Et donc dans cette conférence, en fait, il va jusqu'à dire que le web 2.0 impose tellement de concentration des données et des services qu'au final, Internet n'est plus qu'un réseau décentralisé, enfin n'est plus un réseau décentralisé, mais une sorte de Minitel 2.0. Et c'est devenu un petit peu une référence, ce terme de Minitel 2.0, pour toutes les personnes qui souhaitent dire du mal du web 2.0. Alors, le web 2.0, qu'est-ce que c'est au juste ? Alors, le web 2.0, qu'est-ce que c'est au juste ? Eh bien, en fait, si on regarde la page Wikipédia web 2.0, elle nous apprend que l'expression est utilisée en fait pour la première fois par Dale Dougherty. C'était en 2003. Et cette expression a été popularisée par Tim O'Reilly lui-même en 2004. Donc Dale Dougherty, c'est le cofondateur de O'Reilly Media en fait. Et donc oui, et donc en fait en 2004, donc Tim O'Reilly il popularise l'usage du mot web 2.0 en 2004 et il en remet une couche avec une conférence et un papier donc intitulé What is web 2.0 en septembre 2005. À partir de 2007, l'expression passe au langage courant et on l'emploie partout dans la planète. Partout sur la planète. Donc dans la conférence en fait, lui et son pote décrivent le web 2.0 selon 5 caractéristiques. Donc première caractéristique, le web est vu comme une plateforme. Deuxième caractéristique, les données sont des connaissances implicites. Troisième chose, on utilise des effets de réseau qui sont entraînés par une architecture de participation. Donc ça c'est le web participatif, on va revenir dessus après. Et donc en fait l'innovation, elle est vue comme un assemblage de systèmes et de sites qui sont distribués et indépendants. Ça on va en reparler aussi, le cloud computing, etc. Bon. Quatrième point, donc des petits modèles d'entreprise qui sont possibles en fait grâce à la syndication de contenu et de services. Autrement dit, des entreprises qui ne vont pas créer de contenu, mais qui vont simplement réutiliser du contenu généré ailleurs. Et par d'autres personnes. Et puis, cinquième et dernier point, qui est un point également important, mais un point technique cette fois-ci, c'est la fin du cycle d'adoption des logiciels. C'est-à-dire qu'en fait, on va plus considérer un logiciel en version 1.0, donc une première version stable, ensuite version 2.0, c'est-à-dire une deuxième version stable, etc., puis des versions de développement, etc. Tout va se faire, on va utiliser ce qu'on appelle le développement agile, c'est-à-dire une méthode de développement en fait où l'utilisateur est censé être au centre. Les professionnels du web ont énormément de mal en fait à impliquer suffisamment les clients pour que le développement agile puisse se faire réellement, mais c'est vers ça qu'on tient. Donc voilà, mais alors là en fait on a une définition, on aboutit en fait à une définition du web 2.0 qui est très vague. En fait, c'est parce qu'elle est réellement vague, cette définition. Le web 2.0, c'est un espèce d'ensemble de concepts, comme ça. C'est un buzzword, en fait. C'est un buzzword. Le web 2.0, c'est pas quelque chose qui existe réellement, concrètement, dans la vie des gens. Excuse-moi, la technique. Est-ce que tu pourrais baisser un petit peu le niveau du fond sonore ?
Pas de soucis.
voilà, random émission aléatoire où on fait tout à la main, donc voilà. Alors, au niveau technique, en fait, concrètement, ah, impeccable. Au niveau technique, concrètement, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, en fait, on a un ensemble de techniques comme ça, et on a décidé, ça, c'est le web 2.0. Alors, au départ, en fait, le web, tel qu'il a été inventé au début des années 90, c'est quelque chose de très très statique. C'est-à-dire, on a d'un côté un espèce de, pas vraiment de langage informatique, mais qui est le HTML et qui en fait sert uniquement à baliser du texte, c'est-à-dire à dire ça c'est le début d'un paragraphe, ça c'est la fin du paragraphe, ça c'est le début d'un texte souligné, ça c'est la fin du texte souligné, etc. Et donc il y a un en-tête au départ où on définit un certain nombre de propriétés du texte, par exemple le texte souligné, la barre de soulignement, elle a telle épaisseur, etc. Mais globalement, en fait, bon, ça reste quand même quelque chose de très très statique, faut aller éditer soi-même les fichiers, etc. Et donc on a évolué vers un web entre guillemets dynamique. C'est-à-dire en fait où les données elles sont pas stockées dans le document, mais les données sont stockées dans une base de données. Et du coup, en fait, le web en lui-même devient une application web, c'est-à-dire globalement une partie de l'application qui va aller récupérer les données depuis la base de données et une deuxième partie de l'application qui va les afficher. Donc là, on avance en fait vers un web un peu plus dynamique où le contenu est pas forcément connu à l'avance quand la personne clique sur un lien, quand l'utilisateur ou l'utilisatrice clique sur un lien. Et le web 2.0, donc c'est l'évolution du web vers un web un peu plus participatif où l'utilisateur est déjà un peu plus un degré de pouvoir qui est un peu plus important. Donc on va retenir un certain nombre de technologies qui vont être utilisées. Donc la première c'est les technologies du web en tant que telles, c'est-à-dire que le but du jeu ça va être d'utiliser du HTML, du XHTML et du CSS valide. Pourquoi ? Parce que pour que le client puisse agir sur le site web, il faut que la page web puisse s'afficher correctement. Autrement dit, il faut des standards forts et des logiciels qui respectent ces standards. C'est-à-dire que le web 2.0 met fin, en fait, globalement, il met fin à la guerre des formats de l'époque Microsoft versus Netscape. L'époque où chacun voulait essayer d'imposer son HTML, d'imposer son JavaScript, etc. C'est fini. Maintenant, il faut absolument la guerre. En fait, elle se fait plus au niveau des navigateurs web, mais elle se fait vraiment au niveau des sites web qui vont essayer de proposer du contenu qui puisse être visible et par tout le monde et partout pareil. Donc, il y a une forte comme ça, une forte tendance qui va vers l'adoption massive des formats du web. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt une bonne nouvelle, surtout pour ceux qui se battent concrètement pour que ces formats soient libres, etc. Donc du coup, tous les formats ouverts. C'est plutôt une bonne nouvelle pour eux, en fait, le web 2.0 au final. Même chose du côté des ce qu'on appelle les applications riches, c'est-à-dire Ajax. Des petits morceaux des énormes morceaux de JavaScript qui en fait vont permettre de l'affichage un peu dynamique. Donc ça c'est important. Pourquoi ? Parce que du coup les applications web ça tient plus des trucs rustres, difficilement utilisables, mais des trucs très jolis, très conviviaux. Et ça c'est mis grâce à des vieilles technologies en fait. Hein, Ajax c'est quoi ? C'est XML et JavaScript. Bon, voilà, c'est les technologies qui maintenant sont connues. Mais. Et même déjà à l'époque en 2003-2004, c'était déjà des technologies connues, mais là du coup en fait on les a vraiment industrialisées. Et donc maintenant quasiment la totalité des sites web qu'on peut connaître, des gros sites web, utilisent Ajax. Après donc la syndication et l'agrégation de contenu. Alors ça aussi c'est quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une modification sur un site web, un nouvel utilisateur, un nouveau commentaire, un nouveau billet, un nouveau produit, une nouvelle émission, n'importe quoi, tout ce qu'on veut, à chaque fois qu'on ajoute ou qu'on retire quelque chose du contenu d'un site web, hop, il y a une petite notification qui passe sur un flux XML et tout le monde est au courant. tout le monde est au courant, et puis en fait c'est des flux qui vont très vite et qui sont également c'est une toute petite technologie en fait, pas très compliquée, ce qui fait qu'en fait on peut très bien la remettre dans un site web. Donc ce qui veut dire que sur un site web, eh ben on va pouvoir placer le contenu, on va pouvoir diffuser le contenu d'un autre site web. Et donc sur un autre site web sur lequel il y aura un autre contenu, etc., etc. Donc du coup les news vont très très vite. Sur un même site web, vous pouvez avoir des news qui... Enfin, vous pouvez avoir une page centralisée où vous avez les news qui proviennent de 50 sites en même temps. Donc pour de l'information en temps réel, pour de l'actualité, etc., c'est très intéressant. Mais bon, voilà. Ensuite, on a donc le système de tag, c'est-à-dire le système d'étiquetage. À chaque fois que vous mettez un contenu sur un site web, ben vous l'étiquetez avec à l'aide de petits mots-clés. Par exemple, émission de radio, ou le nom et le prénom d'une personne, etc. Et puis du coup, ben, en fait, vous avez un accès, vous vous retrouvez très vite en fait avec tout le contenu du site, qui est déjà de base catégorisé par les éditeurs du site web, mais qui également en plus est étiqueté. Donc ça permet en fait de rajouter un degré de liberté dans la catégorisation des données et des contenus. Et donc vous passez, bon ben bah voilà, vite fait, hop, tiens, au départ vous regardez la catégorie, j'en sais rien, la catégorie émissions du site web de Radio Campus par exemple, et puis à l'intérieur de cette catégorie, vous avez les émissions politiques, vous avez les émissions comme ça. Bon, donc ça c'est des catégories et des sous-catégories. Mais en fait, par exemple, on peut très bien parler du président de la République, pour en dire du bien ou pour en dire du mal, et pas forcément dans des émissions politiques. Donc du coup, si vous cherchez quelque chose de plus global sur le président de la République, et ben vous regardez le tag Nicolas Sarkozy, par exemple. Par exemple. Hein, exemple au hasard. Pour ça, vous pouvez être au courant qu'à Radio Campus, il n'y a pas grand monde qui aime ce président. Mais donc voilà, c'est un peu l'idée. Ensuite, on fait des jolies URL. Pourquoi ? Bah parce que il faut que l'utilisateur se sente un petit peu chez lui. Dans ce vaste univers bisounours où le contenu est roi et où le contenu va très très vite, il faut que l'utilisateur puisse quand même voilà, se sentir un petit peu à l'aise chez lui et pas avoir des adresses pour localiser le contenu qui soient des adresses de plus de 200 caractères avec des symboles cryptiques dedans. Donc on essaie de faire des jolies URL. Puis deuxièmement, bon, puis dernièrement, on fait des choses un petit peu, on essaye de faire des choses web à peu près propres. Donc notamment une architecture REST, donc RESTful, etc. Et puis des services web XML qui permettent en fait, par exemple, d'avoir depuis son téléphone portable à 500€ accès à un certain nombre de contenus, et puis également de pouvoir poster du contenu depuis son téléphone à 500€. Donc ça, ben voilà, c'est la super hype 2.0 dans le métro parisien. On peut accéder à son site web, poster des commentaires sur des blogs et tout, le tout depuis un téléphone portable. Donc bon ben voilà, on est content. Donc voilà, donc au niveau et ça, toutes ces technologies-là, le Ajax, l'agrégation de contenu, les tags, les jolies URL, etc. Tout ça, en fait, c'est ce qu'on appelle le web 2.0. Et plutôt que de dire, bon ben voilà, on fait des sites web avec telle technologie, telle technologie, telle technologie, maintenant on préfère utiliser un terme marketing comme ça, qui est le terme donc web 2.0, qui n'a pas une origine, comme on l'a vu, une origine technique concrète, mais une origine de gens qui essayent de vendre de la technologie et de gens qui veulent essayer de lancer des modes. C'est typiquement Tim O'Reilly, c'est ça quoi. C'est pas autre chose quoi, c'est quelqu'un, c'est entre guillemets un évangéliste du net. Donc voilà. Alors, le point central de tout ça, en fait, c'est le côté prétendument participatif du web 2.0. Parce qu'effectivement, sur votre petite page, web, dans tel ou tel site participatif, que ce soit MySpace, Facebook, Twitter, YouTube, Copains d'Avant, Wikio, tout ce qu'on veut, vous pouvez donc poster du contenu, vous pouvez reposter du contenu qui a été créé ailleurs. Vous pouvez commenter le contenu, vous pouvez etc., etc. Alors l'idée, c'est que tous ces sites web ne produisent eux aucun contenu. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui font de l'argent, mais qui en fait ne produisent aucun contenu. Tout le contenu est créé par les utilisateurs. La richesse d'un site web, c'est le contenu. C'est le contenu qui va être indexé, c'est le contenu qui va être lu. Donc la richesse, elle est vraiment liée au contenu. La richesse d'un site web est vraiment liée au contenu. Et la création de cette richesse, elle ne revient pas aux utilisateurs de Facebook ou de MySpace, elle revient uniquement, enfin, voilà, uniquement dans les poches du propriétaire de Facebook ou du propriétaire de MySpace. Propriétaire de MySpace qui est d'ailleurs Rupert Murdoch, il me semble. Hein, il me semble que c'est lui qui a. Qui a bouffé MySpace. Donc c'est ces personnes-là que chaque fois que vous postez un lien sur Facebook ou que vous mettez une photo sur MySpace ou que vous mettez une chanson, c'est ces types-là qui s'enrichissent derrière. Parce que oui, chaque fois qu'on poste un contenu, on agrandit le site web. On agrandit le site web et puis on fait en sorte que d'autres à côté, d'autres abonnés au même service, le lisent. D'autres abonnés qui se font piéger par la pub, enfin qui voient la pub qui est imposée, etc., etc. Donc en fait, c'est un truc où on oublie complètement la politesse des gens de ne pas imposer la pub aux autres. Si vous m'envoyez un lien Facebook, vous m'envoyez de la pub avec. Donc c'est génial, je suis obligé de lire la pub que vous m'avez envoyée. Tout ça pour lire un contenu qui est pas forcément super intéressant. Et donc tout, voilà, vraiment c'est l'idée que globalement dans le grand marché du grand internet mondial, et ben on est tous non seulement consommateurs mais on est producteurs de richesses pour des gens qui complètement s'en foutent complètement de nous, qui revendent nos données personnelles ailleurs, qui ont des politiques de confidentialité complètement délirantes. L'arrêt du service, il n'existe pas. Si je clôt mon compte Facebook, en fait, les données restent à Facebook et basta. C'est revendu à des charlatans qui espèrent donc monétiser le contenu des sites web en faisant du profiling des utilisateurs, etc. Il faut savoir que Facebook est très très avancé dans ce sujet-là, en fait. Et Google aussi, d'ailleurs. Et donc, en fait, la monétisation de tout ça, elle se fait par la pub et par le référencement. C'est-à-dire que le but du jeu, en fait, c'est qu'une donnée qui est sur Facebook puisse être lue absolument partout et qu'elle puisse être qu'on puisse cliquer dessus depuis n'importe où. Autrement dit, ils sont très copains-copains avec les moteurs de recherche, type Google ou autre, qui indexent goulûment tout le contenu et qui, derrière, en fait, le mettent en libre disposition sur Internet. Et donc, vous mettez le but du jeu, c'est que le premier lien, quand on tape le nom d'une personne dans Google, le premier lien, ça va être son profil Facebook, ou alors son profil MySpace, voire les deux, son profil Twitter, etc. Et là, c'est impossible de se cacher, quoi. Impossible de se cacher. Et puis tout ça, ça a un côté addictif. Parce que les utilisateurs deviennent complètement prisonniers d'outils qu'ils ne maîtrisent pas, et sur lesquels ils n'ont strictement aucun contrôle. Vas-y, en fait, pour essayer de faire supprimer ton compte de Facebook ou de MySpace. Et on n'en sort pas, parce qu'en fait, on a tous ces copains, copines, etc., qui chacun mettent quotidiennement du contenu, on a envie de savoir, après tout, c'est les copains et tout et tout. Et au final, on est complètement piégé, on peut plus en sortir. On peut plus en sortir parce que y a les copains, et puis on peut plus en sortir parce que, de toute façon, Facebook interdit qu'on en sorte. Donc, au final, dès qu'on met le doigt dedans, l'engrenage nous prend tout le bras. C'est pour ça, en fait, que je pense que je vais terminer là-dessus. J'ai commencé par quelques remarques un petit peu marxistes en parlant d'arnaques qui visent à imposer le contrôle des faibles par les forts, en parlant d'organisation de l'exploitation de l'homme par l'homme via le contrôle des masses et la concentration des données et des services. Et en fait, je vais même plus loin. Le web 2.0, c'est l'opium numérique du peuple. On peut pas, tant qu'on est dans le web 2.0 et qu'on est dans cette optique-là de participer à un espèce de grand village planétaire et tout, mais en fait on n'a aucun contrôle dessus, les thunes sont prises par d'autres, etc. On n'a aucun moyen de s'en sortir. Donc c'est pour ça qu'il faut refuser globalement, complètement, le web 2.0. Et voilà, et d'ailleurs en fait en parlant de thunes, et vraiment je termine là-dessus, histoire de laisser un petit peu la parole à une personne qui a un sujet, qui a vraiment préparé un sujet technique, faut se rappeler en fait quand même que ce qui frappe par exemple sur Twitter, c'est qu'il n'y a pas de pub. Sauf sur la version japonaise, paraît-il. Je n'utilise pas Twitter, et encore moins sa version japonaise. Donc, comme ça, c'est réglé. Mais donc, il n'y a pas de pub sur Twitter. Pourquoi il n'y a pas de pub sur Twitter? Parce qu'en fait, c'est dans une hype, qui est la hype 2.0, qui est un espèce d'énorme effet de mode, qui fait qu'en fait, dans la Silicon Valley, on file du pognon. Et Twitter a suffisamment de pognon pour vivre comme ça, sans publicité, pour diffuser comme ça des messages à perte, enfin, toute une infra complètement à perte, jusqu'en 2013, il me semble. Donc jusqu'en 2013, on est sûr qu'il n'y aura pas de pub dans Twitter. Et puis en fait, après, bah, ils disent, bon, de toute façon, ça sert à rien, on va pas mettre de pub dans Twitter, on s'en fout. Non, on va revendre les données comportementales. Et donc en fait, Twitter est en train de bosser là-dessus, sur une base d'utilisateurs qui grandit. Ils espèrent en fait pouvoir monétiser à partir du moment où ils obtiendront 1 milliard d'utilisateurs. Ce qui est un petit peu optimiste, mais bon, de toute façon, ils ont aucun lien avec la réalité, ces gens-là. Donc ils s'en foutent complètement et ils dilapident du pognon comme ça gratos jusqu'en 2013. Et derrière, en fait, ils espèrent pouvoir monétiser sur des données utilisateurs, ce qui est quand même génial. Hein, ce qui est quand même vraiment waouh. On voit un petit peu le libre arbitre humain, tout ça, les libertés fondamentales des individus et tout. On voit à quel point ces gens-là n'ont rien à cirer. On utilise leurs services et derrière, en fait, ils vont vendre nos données. Nos données comportementales, c'est les technologies de contrôle mais appliquées au grand capital. C'est sympa, voilà. Donc c'était ma note, un petit peu mon billet d'humeur sur Twitter, sur MySpace, sur Facebook et sur le 2.0. Je vous souhaite donc peut-être faire une pause musicale.
Ouais, une petite pause musicale.
Ok.
Donc bah voilà, vous êtes bien sur Radio Campus 106.6 FM et on se retrouve tout de suite après ça.
Voilà, donc vous êtes de retour sur Radio Campus 106.6 FM, l'émission Random, émission aléatoire. Donc là, vous venez d'entendre en premier Free Software Song de Fesner. Il n'y a pas d'album. Je sais pas où a décoté Little Charlie.
La chanson de la Free Software Foundation.
Ouais. Ouais. Mais... Oui, c'est ça. Mais la version, je sais pas où il l'a chopée réellement. Enfin, voilà. Après, vous avez entendu One de King Garcus sur The Great Escape, encore et toujours sur Jamendo. Voilà pour les musiques. Donc on peut passer au petit sujet. Alors on a annoncé un sujet Sox 13, pardon, et N-Killer 2. Ce sera plus sur l'origine de ces deux outils. Ce sont des outils qui ont été mis en fait, qui ont été créés pour mettre en évidence une faille de sécurité sur TCP. Et donc voilà, donc j'ai plus parlé de l'origine en fait de ces outils que des outils eux-mêmes en fait. Voilà. Donc alors, bah le sujet c'est, comme je viens de le dire, une faille dans le protocole permettant de créer des connexions à persistance infinie. Alors persistance infinie, c'est... Ouais, j'ai lu ça un peu partout, c'est un joli mot, c'est en fait on va créer des... Enfin, on verra en détail plus tard, mais ça ce sera pour créer des connexions lentes, en fait. On verra plus dans le détail. Voilà. Donc, ça exploite, en fait, une faiblesse qui permettra de provoquer un déni de service à force. Voilà, on parle donc d'attaque de type DOS. Voilà. Donc, on va faire un peu de chronologie pour resituer la chose. C'est apparemment aux environs de 2005, en passant la couche TCP vers le userland du scanner Unicore Scan. C'est à cette occasion qu'en fait que l'équipe a détecté la faille et donc a créé l'outil Sox 13, qui n'a pas été diffusé dans un premier temps. Donc voilà, ils l'ont gardé un peu pour eux. Alors Unicorn Scan, c'est un scanner. Hein. C'est un scanner ni plus ni moins. C'est en développant le scanner qu'ils ont rencontré ça aux alentours de 2005. Voilà, donc dans un premier temps, en fait, ils ont divulgué la faille qu'aux principaux acteurs. Des réseaux en fait, pour leur laisser un peu le temps de se retourner. Alors, pour pas jeter une grosse pierre dans la mare du réseau. Un petit peu ça. Donc voilà. Alors il y a une implémentation très proche en fait de Sox 13, a été diffusée dans le FARC numéro 66.
Le FRAC.
FRAC.
FRAC. Mais FARC, mais vas-y.
Une patate chaude s'est glissée dans ma bouche.
Ah oui.
Donc dans le FRAC numéro. Dans l'article 9. Alors il est sorti le 11 juin 2009.
Il n'a pas encore été traduit en français.
Ouais.
Au passage.
Donc voilà, donc en fait ils ont créé un petit outil qui s'appelle N-Killer 2, qui a fait beaucoup moins de bruit que Sox 13, et pourtant une implémentation donc fonctionnelle qui est sortie 3 mois avant les patchs correctifs. Donc les patchs correctifs, c'est septembre 2008. Vous voyez, c'est quand même, il y a déjà plus d'un an.
Ouais, quand même.
Voilà. Autant pour moi en fait. 72 minutes en fait, c'est juste la publication officielle sur Outpost 24 par Robert E. Lee et Jack C. Lee. Donc ça a été une publication minimale dans un premier temps, avec peu de détails. Et c'est là que Soxstress en fait a pointé le bout de son nez apparemment. Donc voilà. On retrouve des traces également dans Bugzilla, dans un rapport du 7 octobre 2008. Voilà, il a été étiqueté, priorité et sévérité moyenne, impact modéré, touchant toutes les versions de Linux.
Excellent, tu sais, le ouais. Truc, bravo les mecs de Linux.
Bah non, mais en fait, voilà, c'est là on est dans Bugzilla, donc c'est Red Hat, donc on parle de noyau Linux, mais en fait ça touche TCP.
Complètement.
Donc, ouais. On verra par la suite que beaucoup de choses sont, bah tout ce qui a TCP en fait est touché, ni plus ni moins. Tout ce qui touche à TCP est touché. Donc voilà. Donc ouais, rapport dans Bugzilla, donc qui date du 17 novembre 2009. Donc ça c'est les dernières modifs en fait. Donc on voit bien que c'est encore tout chaud. Parce qu'ils sont encore dessus en fait. Cette attaque cible un peu les limites ou spécificités intrinsèques du protocole TCP. C'est ce qui le rend en fait délicat et qui pose problème dans sa résolution. D'ailleurs. Dans Bugzilla, là, ils disent tout simplement que bah oui, ok, il y a un problème qui touche les noyaux Linux, mais c'est pas dû au noyau Linux, c'est dû à la couche TCP. Donc en gros, c'est pas que c'est pas leur problème, mais ils peuvent rien.
Ils s'en foutent un peu. C'est bon, on va pas dire du mal de Linux, hein, mais quand même, non, normalement, les problèmes de sécurité, Linux, ils s'en foutent un peu, quoi.
Oh, ça troll là, ça troll.
Non, pas du tout.
Bon, ensuite, c'est en septembre 2009, donc voilà, c'est pas très vieux, hein, qu'il y a eu distribution de patch ou de placebo pour certaines applications, et mise à jour des alertes de vulnérabilité. Donc, bon, les alertes, je ne veux pas vous donner les numéros, hein, il y a la CVE 2008-4609, allez, si je le fais. Pour Microsoft, ils ont mis ça sous MS09048.
C'est quoi ça, Microsoft? Je ne connais pas.
C'est, ils utilisent TCP aussi, je crois.
Ah ouais, d'accord.
Je ne suis pas sûr, mais...
Moi non plus.
Enfin bon, voilà. Cisco, oui, parce que Cisco, bah, forcément, comme ils font pas mal d'équipements réseau, hein, et que tout ce qui touche TCP est touché, bah Cisco a été pas mal touché, donc ils ont publié aussi une faille sous le nom de Cisco SA2009-0908
yeah.
TCP24. Voilà pour les petits exemples. Il y a un autre article aussi sur kdeb.redhat.com. Alors c'est la création d'une doc en fait le 8 septembre 2009. Donc là encore, hein, c'est pas vieux. Avec les méthodes pour limiter la casse. Billet qui a été mis à jour le 5 octobre 2009. Ils ont changé les petites règles IP tables en fait. Hein. Parce qu'il n'y a pas vraiment de solution pour TCP. Donc en fait, ils jouent un peu avec les pare-feux pour essayer de limiter la casse. Mais ce sont des solutions qui ne sont pas implémentables partout. Parce qu'elles ont des inconvénients. Typiquement, c'est bah, quand il y a plusieurs clients qui vont se connecter en fait par un réseau NAT et qui vont se retrouver avec la même adresse IP sur le serveur, avec les règles IP table là, qu'ils conseillent de mettre, en fait, dans certains cas, ça peut en fait être considéré comme une attaque et du coup, ils vont être bloqués.
Ah,
alors que pas du tout. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'autres solutions plus efficaces. Quoi.
Donc la seule solution, c'est une solution où on accepte des faux positifs.
Voilà, c'est ça. D'où la diffusion de patch et de placebo pour certaines choses dont je parlais tout à l'heure.
D'accord.
Voilà. Alors, bon, pour la petite anecdote, hein, sur les 15 implémentations de TCP testées par l'équipe d'Unicorn Scan, toutes ont montré les mêmes faiblesses, en fait. Donc ça montre bien que tout ce qui touche TCP est touché, de plus ou de moins. Ils ont élaboré différents scénarios d'attaque. Les ressources touchées peuvent être mémoire, temporisateur et compteur de noyaux, en plus des applications fournissant les services, bien sûr. Voilà. Donc, on peut différencier un peu deux types de déni de service. Un qui repose sur le nombre, d'attaquants, le nombre d'adresses. Hein. Ça consiste en fait à consommer les ressources réseau et empêcher la cible de fournir ses services dans de bonnes conditions, voire plus du tout. L'autre type d'attaque DOS, donc celle dont on parle là plus exactement, elle va elle plus viser les ressources du système hôte plus que les ressources réseau seules. Plus précisément, les ressources système qui gèrent les échanges réseau. Autrement dit, bah, c'est l'OS, tout simplement. Voilà. Et c'est là qu'il y a forcément des inégalités entre OS. Bon, tous les OS ne vont pas réagir de la même façon, hein, vous en doutez. Alors, pour exploiter en fait cette faille, il faut d'abord ouvrir une connexion persistante infinie. Pour ouvrir une connexion réseau persistante infinie, il faut déjà se connecter, vous allez me dire. Eh ben ouais, en fait, il faut passer l'étape du three-way handshake, pardon. C'est-à-dire, dans le protocole TCP, l'envoi du signal sync par le client, le retour de sync ACK par le serveur, et le retour ACK par le client. Il faut déjà que ces trois signaux-là puissent être établis. Et après, en gros, à l'inverse des attaques où les services réseaux de type SYNFLOOD, on va créer une connexion légitime. Voilà. Et maintenir cette connexion ouverte ne suffit pas. En fait, il va falloir s'arranger pour créer un déséquilibre en fait, entre l'attaquant et le système cible. Le service attaqué aura en charge en fait, de gérer les connexions, de vérifier leur état, etc. etc. On passe en fait, d'un rapport pour une attaque SYNFLOOD classique de 1 contre 1 au niveau des ressources, où l'attaquant en fait, utilise, grosso modo, à un peu de choses près, l'équivalent en ressources de l'attaqué. Alors là, en fait, pour l'attaquant, ça va être très peu de ressources, il aura juste à mémoriser l'état de ses connexions et y revenir de temps en temps, alors que l'attaqué, comme en fait il est en charge de gérer les connexions, et ben pour lui ça va être lourd. Alors en fait les outils Sockstress et Nkiller 2, eux en fait ils ont à disposition plusieurs scénarios, et leur rôle en fait ça va être déjà de passer cette étape, donc de freeway handshake, donc d'établir une connexion légitime dans un premier temps. Et puis, en fait, en gros, ils vont simuler une connexion pourrie ou un problème réseau. Ce qui fait que le serveur, ça va lui demander beaucoup de ressources pour surveiller cette connexion. Alors que l'attaquant, en gros, les outils, savent en fait que c'est bidon et peuvent y revenir. Donc voilà grosso modo pour ce qui est de l'explication. J'espère que c'était clair, que tout le monde a compris. Là, on est un petit peu chaud sur le temps.
Un petit peu chaud.
Donc voilà, j'espère que ça a été clair. On va clôturer là. On va passer à l'agenda peut-être.
Ouais, on va passer à l'agenda qui va être rapide a priori. Attends, faut que je remonte le son de mon micro.
Allez-y.
Voilà, et là du coup, j'ai les oreilles qui claquent parce que je m'entends trop fort. Mais c'est pas grave, donc on va faire vite fait l'agenda. Donc l'agenda il commence demain. L'agenda demain, donc lundi 21 décembre, donc il y a les lundis des libertés numériques, donc organisé par l'association CLX, et donc qui aura pour thème jouer gratuitement en toute légalité. Et donc juste derrière, en fait, donc il y aura une LAN party juste après la conférence. Donc ça, on l'avait déjà annoncé la semaine dernière. Du 27 au 30 décembre, donc à Berlin, il y a le Chaos Communication Congress. Donc le 26e du nom, donc le 26C3, donc qui se passe à Berlin, qui réunit à peu près 3000 hackers, je crois. Maintenant, il y a à peu près 3000 personnes annoncées. Et donc c'est 80€, c'est à Berlin. Donc le 8 janvier, parce que j'avais préparé un agenda en fait. Donc ouais, le 8 janvier, donc le meeting 2600 Lille, hein, vendredi 8 janvier, meeting 2600 Lille, 19h30, Grand Place de Lille. Toutes les infos sur www.2600lille.org, et il y aura également un lien vers ce site sur notre site à nous, qui est donc lille.dg-c.org/random, et puis également on diffusera la news sur le site de campus www.campuslille.com. Et puis également le 9 janvier à partir de 18h donc à Méricourt, donc il y aura donc la fête à François Béranger. Donc c'est un concert co-organisé par Radio Campus, l'entrée est placée à 5€, il y aura donc Sarclo, Gavroche, Presque Oui, Les Blaireaux, HK et les Saltimbanques, et puis en tête d'affiche, donc Marcel et son orchestre, un petit groupe du 5962 95C, ou 95D, je sais plus comment ils disent. Et donc voilà, pour celles et ceux qui n'ont jamais encore vu de leur vie Marcel et son orchestre, ils pourront le voir. Donc là on a ultra dépassé notre horaire. Et on va donc laisser la parole à Choupa Pimento, votre émission électro préférée. Et puis on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Nous on revient le 3 janvier je crois.
Le 3 janvier
où on fera une émission un petit peu light pour cause de 3 janvier. Les connaisseurs apprécieront. Donc on fera une émission un petit peu light le 3 janvier et puis deux semaines plus tard on reprendra le cours de nos aventures habituelles. Je vous souhaite donc une excellente soirée. Et puis dans deux semaines.
Voilà, bah bonne soirée, bonne fête de fin d'année à tous et restez avec nous sur Radio Campus et à bientôt.
À bientôt.